EMC IPV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta situation ». Et aujourd'hui, c'est Joël qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, nous terminerons avec la rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle les pasteurs Donato et Annise Antalone nous ont raconté comment Dieu a guéri leur fille. Voilà, je vais retrouver les chroniqueurs.
Bonjour Yveline.
Vous allez bien aujourd'hui?
Super.
Aujourd'hui, notre thème, Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta situation. Donc là, on parle de toutes sortes de situations, jusqu'à la plus désespérée. Dieu n'a pas dit son dernier mot tant que Dieu n'a pas parlé. Le verdict final revient toujours à Dieu. Mm-hmm. Et donc, on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Donc Joël, le titre de ta pensée est « Dieu n'a pas dit son dernier mot ».
Oui, en fait, je me souviens quand j'avais 18 ans, en fait, je me cherchais beaucoup. Je voulais connaître la volonté de Dieu pour ma vie et je me souviens, j'étais vraiment confus. Et j'ai trouvé un livre par Joyce Meyer qui s'appelait « Enjoying where you are on the way to where you're going ». Traduction, on doit vraiment apprécier là où nous sommes, sur le chemin où nous allons. Et ce livre m'a vraiment marqué, je m'en suis toujours rappelé, parce que ce livre m'a aidé à comprendre une chose très importante, c'est que notre vie en ce moment, bien, c'est vraiment un parcours. Notre appel ou notre destinée, souvent, on s'imagine que, bien, quand je vais être arrivé à tel point dans ma vie, quand je serai peut-être au sommet de mon appel, bien, voilà, là, je pourrai être heureux. Et c'est vraiment une séduction. En fait, nous sommes séduits. Si on s'imagine qu'on va être heureux juste un jour, mais Dieu nous appelle à être heureux aujourd'hui sur le chemin où nous allons. Et je trouve ça vraiment une belle façon de percevoir la vie. C'est une belle vision pour notre vie parce que, bien, en fait, on va se réjouir juste un jour. Non, on devrait se réjouir tous les jours de notre vie parce qu'en fait, Dieu veut qu'on soit heureux. Mais il y a plusieurs chrétiens qui sont frustrés, qui sont malheureux, insatisfaits. Ils sont là, ils voient juste leur vie actuelle et puis ils se disent « Ah, bien, c'est pas ça que je veux vivre et puis je m'attendais de vivre d'autres choses. » Et je comprends qu'on peut tous passer par des moments comme ça, mais on ne veut pas vivre comme ça parce que là, c'est vraiment le désastre. Ce que Dieu veut qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que notre destinée n'est pas une simple destination, mais un long parcours où nous apprenons à être heureux aujourd'hui sur le chemin où nous allons. Et ce parcours, ça, en fait, c'est là où Dieu nous forme et nous transforme. Et on ne doit pas non plus être dans le mépris par rapport à ce processus. Parce que oui, on va être formé par des expériences positives, mais aussi négatives. Et on va être transformé et pour vraiment vivre la gloire de Dieu dans nos vies et resplendir la gloire de Dieu. Mais si on ne passe pas par le processus, si on veut juste arriver au sommet automatiquement, sans passer par le parcours pour y arriver, mais finalement, c'est un non-sens. Et puis, on devrait vraiment s'arrêter et se poser la question aujourd'hui, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je me dis, bien, je vais être heureux juste un jour ou est-ce que je peux vraiment accepter aujourd'hui le processus de Dieu dans ma vie? Donc, pour y arriver, on doit croire aujourd'hui. Nous devons croire que Dieu se charge lui-même de notre destinée. Ça, c'est une chose très importante. Si je comprends, OK, Dieu est au contrôle de ma vie, il va se charger aussi de ma promotion. Je n'ai pas à m'inquiéter de toutes ces choses-là, mais je peux lui faire confiance aujourd'hui dans la situation où je me retrouve. Et puis, il y a trois points, en fait, que j'aimerais vous partager aujourd'hui pour vous encourager au niveau de votre patience concernant votre appel et votre destinée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, rassemblés, nous sommes tous dans le service de Dieu et peut-être aujourd'hui, vous servez déjà le Seigneur là où vous êtes. Et peut-être vous dites, ah bien, j'aimerais ça être comme les gens à EMC TV ou j'aimerais ça vivre telle ou telle percée dans ma vie. Et c'est très bien d'avoir des aspirations, mais ne méprisez pas là où vous êtes en ce moment. Parce que je me souviens quand j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 6 ans, je trouvais ça difficile parce que j'avais l'appel de Dieu sur ma vie, j'avais déjà les rêves que Dieu avait déposés en moi et pourtant, je ramassais des tasses sales et puis j'étais comme frustré. Je me disais, mais pourquoi ça m'arrive? Seigneur, j'ai tout abandonné pour toi, pour te servir et me voici en train de ramasser des tasses sales. Et donc, je peux vous comprendre là où vous êtes. Je vais vous encourager aujourd'hui avec 3 choses très importantes. Premièrement, l'homme a une vision très limitée de sa vie. Nous sommes comme ça, nous sommes très limités dans notre vision. On s'imagine, bien là, aujourd'hui, dans mon quotidien, ramasser les tasses sales, bien, je trouve ça très difficile et je comprends. Mais en fait, ce que j'ai compris plus tard, c'est que pendant ces 6 ans où je travaillais dans le monde séculier, Dieu m'a formé au niveau de mon caractère, mais aussi pendant cette période de ma vie, je formais des gens constamment parce que personne ne voulait rester dans ce travail. Donc, je me retrouvais toujours en train de former des personnes et j'ai compris plus tard, ah, mais c'était une école en fait parce que j'ai dû exercer beaucoup de patience avec des personnes qui étaient parfois difficiles. Bref, Dieu m'a formé pendant ce temps-là. Et dans Proverbes 14, verset 12, la Bible nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Parfois, on est là, on a nos idées. « Ah, je devrais peut-être faire ceci ou cela, ou je dois peut-être agir maintenant pour forcer les choses. » Mais en fait, vous êtes mieux d'être patient et persévérant dans les voies de Dieu parce que Dieu est votre agent de promotion. Il va vous aider à entrer dans votre prochaine saison si vous demeurez avec lui dans son plan. Deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est que l'homme peut essayer d'entrer lui-même ou humainement dans sa destinée. Et c'est là où on retrouve encore plus de chrétiens frustrés parce qu'ils devancent le temps de Dieu et puis au lieu d'être patients et au lieu de permettre à Dieu de promouvoir leur vie, de leur donner des promotions, bien, ils sont là en train de forcer les choses sans vivre ou expérimenter la faveur surnaturelle de Dieu. Vaut mieux attendre et peut-être, oui, entre guillemets, souffrir pendant un temps, mais vraiment être dans la volonté de Dieu que de devancer les choses et d'avoir peut-être un Ismaël. Vous savez l'histoire d'Ismaël, bien, d'Abraham et Agar, vous connaissez aujourd'hui qu'il y a eu vraiment bien, des choses négatives qu'on ne vivra même pas aujourd'hui si Abraham avait été plus patient. Donc, dans le psaume 75, au verset 6 et 7, dans la traduction King James, nous lisons « La promotion ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Sud, mais de Dieu qui est juge. » Donc, si on croit aujourd'hui que Dieu est notre agent de promotion, nous pouvons marcher et demeurer dans la paix constamment. Si l'enfant de Dieu accepte d'échanger sa frustration pour la patience et l'obéissance, il ne manquera jamais de rien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il vivra tout ce que Dieu a prévu pour lui, car Dieu est sa source. Et la troisième chose que j'aimerais vous dire concernant peut-être votre frustration que vous vivez en ce moment, bien, l'homme spirituel doit comprendre que Dieu est celui qui l'élèvera. Et dans le psaume 37, verset 23, nous lisons « Les pas de l'homme, bon ou juste, sont dirigés par le Seigneur, il prend plaisir à sa voix. » Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes déjà dans une relation avec le Seigneur, vous savez que Dieu est celui qui vous a dirigé. Parfois, vous dites, ah bien, je ne sais pas si c'est vraiment Dieu qui m'a dirigé à tel endroit. Mais si vous êtes dans une communion avec le Seigneur tous les jours, vous pouvez simplement être rassuré et dire, bien, si je suis ici et j'ai toujours eu une communion avec le Seigneur, bien, je suis dans la paix, je crois que je suis là où Dieu veut que je sois en ce moment. Donc, demeurez dans la paix. Les pas de l'homme bon ou juste sont dirigés par le Seigneur. Soyez juste rassurés, je suis là où Dieu m'a appelé. Donc, je vais être dans la paix à ce niveau-là. Et j'aimerais aussi terminer cette pensée en vous disant, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur votre vie. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez dans une situation en ce moment que vous n'aimez peut-être pas ou que vous trouvez difficile. Bien, ce n'est pas la fin de votre vie. Gloire à Dieu, Dieu a encore des projets pour vous. Il n'a pas dit son dernier mot sur votre vie. Donc, demeurez encouragés. Ne croyez pas qu'il vous a oublié non plus dans votre situation actuelle. Dieu est un bon Dieu. Il va continuer à vous parler. Il va parler encore et encore. Mais comprenez ceci, vous êtes simplement en ce moment dans un temps de formation. Et une chose très importante en terminant, et ma deuxième fin, comme ma femme dirait, mais une chose très importante, c'est que nous sommes un chef-d'œuvre que Dieu est en train de faire, est en train de créer un chef-d'œuvre. Et puis, le pinceau de Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Et il va faire un chef-d'œuvre avec votre vie si vous ne quittez pas son chevalet. Donc, demeurez là, soyez patient et voyez que Dieu va vous parler encore. Il va vous bénir et vous promouvoir.
Amen. Amen. Merci, Pasteur Joël. Merci beaucoup. On va regarder tout de suite notre verset du jour qui est dans Proverbe 16 au verset 1. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Et c'est ce que tu partageais dans ta pensée, c'est que parfois on est là, on voit notre situation qui est plus ou moins dramatique en fonction des cas. Pour certains, c'est un désir de changement, de rentrer dans l'appel de Dieu, et puis ça génère énormément de frustration, et que ça peut durer en plus pendant plusieurs années. Pour d'autres, il s'agit vraiment de quelque chose de dramatique, d'un diagnostic peut-être, d'une maladie, et l'homme fait des projets. Peut-être que certaines personnes ont reçu un diagnostic leur disant « plus jamais vous ne marcherez de votre vie ». Donc, on fait des projets, voilà, je vais passer ma vie dans un fauteuil roulant, voilà comment va ressembler ma vie, mais l'Éternel n'a pas dit son dernier mot, et c'est vraiment une parole paroles encourageantes qu'on a, de savoir que peu importe où on se trouve dans notre situation actuelle, peu importe les difficultés qu'on peut vivre, tant que Dieu n'a pas parlé, ce n'est pas terminé. Il y a toujours une issue, il y a toujours une possibilité. Et c'est vraiment encourageant de se dire qu'on peut compter sur le Seigneur, peu importe la profondeur de notre difficulté, la profondeur du gouffre dans lequel on est tombé.
Amen, Yveline. Non, je pensais à... Pardon, excuse-moi. Je pensais à ce chant de Pasteur Atom, c'est de Nadège Mbouma, qui dit... Souvent, le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Mm-hmm. Et ce chant s'appelle Alpha Omega. Et j'aime vraiment ce chant parce qu'il dit que Dieu est le commencement de ce que nous sommes, mais il est aussi l'oméga de ce que nous sommes. Donc, même si sa promesse, elle tarde à venir, elle va vraiment s'accomplir. Et c'est un chant vraiment merveilleux qui encourage à vraiment espérer dans les promesses de Dieu et à se tenir dans ses promesses. Parce que certainement... Dieu se lève un moment dans notre situation avec gloire.
Amen. Amen.
Et quand on sait que Dieu est bon, on sait que Dieu a des projets de paix et de bonheur. Et oui, on peut avoir beaucoup de projets. Et quelquefois, quand on parle projet, on se dit c'est acheter une maison, acheter une voiture. Mais on peut avoir aussi le projet de rester malade, le projet de mourir, le projet que la situation ne va jamais changer. Et en fait, nos projets doivent être les projets de Dieu. Et la Bible dit que l'homme a beaucoup de projets, mais seul celui de Dieu se réalise. Mmh. Et c'est de se dire, bah, peu importe la situation dramatique dans laquelle je me trouve, quel est le projet de Dieu pour ma vie ? Est-ce que c'est la mort ? Est-ce que c'est la pauvreté ? Est-ce que c'est tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui ? Non, c'est pas ça le plan de Dieu pour ma vie. C'est pas ce que Dieu a dit, c'est pas ce que Dieu a formulé lorsqu'il m'a créé. Il a pas dit que j'avais été fait pour ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le dernier mot de Dieu et que ça doit pas être mon projet. Et ce que je suis en train de construire aujourd'hui n'est pas le projet de Dieu.
Exactement. On voit que Dieu a créé toute chose par sa parole première. Et la parole de Dieu a une puissance qu'on peut pas mépriser en fait. Par sa parole, Dieu crée des choses, Dieu détruit d'autres choses, Dieu recrée plutôt d'autres choses dans le sens où il transforme les choses qui paraissent mortes, il leur donne la vie, etc. Et en fait, la parole de Dieu, quand elle est déclarée sur notre vie, et si Dieu, comme tu dis, à notre naissance, avant même notre création, même avait déclaré des choses sur notre vie, avait parlé des paroles de vie sur nous, avait parlé des projets grands et extraordinaires, des fruits pour son royaume, c'est par paroles doivent s'accomplir. Donc, tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot en disant « voilà, c'est terminé, là, c'est fini, on s'arrête là », c'est encore possible que la chose évolue. Et ça peut paraître des fois complètement fou. On se dit « ouais, mais dans la situation dans laquelle je suis, il n'y a plus rien à faire, c'est fini pour moi. J'ai tellement échoué où les médecins ont dit telle ou telle chose sur ma vie, ils ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. D'ailleurs, ils refusent de me donner des médicaments parce que selon eux, de toute façon, on ne peut pas soigner. C'est intraitable, on me donne juste des médicaments pour me soulager de la douleur. C'est terminé. Ça, c'est la parole de l'homme. La parole de Dieu, elle dit peut-être tout l'inverse. Et tant que Dieu n'a pas parlé, tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, on ne peut pas s'arrêter. On doit toujours avoir cet espoir qu'à un moment ou à un autre, notre situation peut totalement changer du jour au lendemain.
Amen. Vraiment, c'est de rester dans l'obéissance, de rester à l'écoute de ce que Dieu a à dire. C'est que même si les situations peuvent sembler à leur fin, peuvent sembler terminales, quand Dieu n'a pas dit son dernier mot, il n'a pas dit son dernier mot. Même si les gens autour de nous peuvent nous dire, oui, c'est vrai, c'est terminé, on voit l'histoire de Marthe et Marie avec leur frère Lazare. Oui. Les gens sont autour d'eux pour les consoler. Les gens avaient des bonnes intentions pour leur dire, c'est vraiment fini. Mais Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Et même 4 jours plus tard, il a dit, Lazare sort et Lazare est sorti. Oui. Donc, c'est de s'accrocher à la parole, être à l'écoute de Dieu. C'est dans l'obéissance, mais c'est aussi dans sa parole. Et d'aller chercher dans la parole, justement, ces versets d'encouragement qui vont dire, Seigneur, j'ai droit à cet héritage, j'ai droit à ces promesses, et de confesser les promesses que Dieu dit, et de rester à l'écoute pour savoir quand, justement, Dieu a dit son dernier mot, quand il va le dire, de savoir aussi écouter pour savoir changer la direction ou accueillir la guérison qu'il va nous donner à ce moment-là.
Exactement.
Je pense à une sœur de l'Église qui avait vraiment à cœur la mission. Elle avait été missionnaire autrefois et là, elle venait de recevoir le diagnostic du médecin qui disait « on va peut-être devoir amputer ta jambe parce que vraiment, c'est terrible ». Et puis, mon père et moi, nous sommes allés lui rendre visite à la maison et puis nous lui avons dit « Dieu n'a pas dit son dernier mot ». Et puis, on a dit vraiment ce rapport-là, bien, tu dois le refuser au nom de Jésus. Et puis, elle est retournée en mission avec ses 2 jambes.
Oui.
Donc, gloire à Dieu, on peut toujours avoir espoir, retrouver l'espoir l'espoir dans le Seigneur et dire, les hommes ont leur perspective, leur vision, mais Dieu est au-dessus de notre réalité. La vérité de Dieu s'impose. Ou, en tout cas, si nous sommes dans la foi, on peut dire non, cette vérité de la parole de Dieu va vraiment s'imposer sur cette réalité qui est là.
Exactement. Et c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, en fait. On peut pas... On n'a pas de notion de temps. Le temps pour Dieu n'est pas comme le temps pour nous. 10 ans pour Dieu n'est pas comme 10 ans pour nous. Nous, on trouve ça une éternité. Toi, tu parlais dans ta pensée des 6 années où tu ramassais des tasses sales. 6 ans, c'était... c'est terriblement long, 6 ans. Et on se dit, bon, ben, Dieu m'a oublié, là, c'est fini. 6 ans, c'est dans notre vie terrestre, c'est tellement court, 6 ans. Mais pour Dieu, le temps n'a aucune importance. En 3 ans, il peut faire beaucoup plus qu'il aurait fait en 30 ans. Mm-hmm. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, donc.
Parce que d'un mot, il va faire basculer la situation de l'autre côté. On voit la fille de Jairus, tout le monde vient voir, bah, elle est morte. Oui. Et il y a une des versions dans les évangiles qui dit que Jésus n'a pas tenu compte de ses paroles. Mmh. Et c'est vrai qu'on entend souvent elle est morte, ça peut être n'importe quoi, c'est mort. Et en fait, Jésus a dit non, elle dort. Et en fait, cette parole-là a changé complètement la vie de Jairus, la vie de sa fille, la vie de toute sa famille. Oui. Et en un instant, tout a basculé sur une seule parole de Jésus.
Ah, Dieu ne nous en voudra jamais de vouloir faire la différence par notre foi. Ouais. Si on est entouré avec des gens qui ont un diagnostic, même des frères et des sœurs qui ont un diagnostic contraire, qui veulent même nous enterrer, comme la famille de Kenneth Hagin, qu'on est tout seul, Dieu ne nous en voudra jamais de vouloir élever notre foi sur un diagnostic bien meilleur que ce que les gens pensent, que même toute l'Église pourrait penser autour de nous. Si vous croyez vraiment à la guérison, si vous croyez que vous pouvez être délivré d'un cancer, de quelque chose d'incurable, de terminé, Dieu nous en voudra jamais de vouloir élever notre foi au-dessus de tout ce qu'on nous a même enseigné.
Exactement. Ne jamais perdre espoir, je crois que c'est vraiment la clé. Quand on se dit que Dieu n'a pas dit son dernier mot, c'est ça, c'est un message d'espérance qu'on veut vous donner aujourd'hui à la maison, vous qui nous écoutez. Peu importe la situation dans laquelle vous pouvez être, moi personnellement, je ne connais pas votre situation, mais Dieu, lui, la connaît et il n'a pas dit son dernier mot. Recevez vraiment cette parole comme étant Dieu lui-même qui vous dit « Je n'ai pas dit mon dernier mot, je ne me suis pas encore levée dans ta situation, mais je vais le faire. Ne désespère pas. » Soyez vraiment encouragés aujourd'hui. On n'a pas de formule magique à vous donner, j'ai pas de date à vous donner, à vous dire « Demain, dans 5 ans, dans 10 ans, Dieu va intervenir. » Non, j'ai rien à vous donner si ce n'est la parole que Dieu déclare qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et si Dieu n'a pas parlé, aucune parole n'est la vérité. Il n'y a que Dieu qui puisse dire la vérité, que la parole de Dieu qui soit vraiment d'une valeur sûre sur laquelle vous puissiez vous appuyer. Donc si Dieu n'a pas parlé, vous n'avez pas à vous décourager. Et on va regarder tout de suite un témoignage vraiment encourageant pour vous qui nous écoutez. Donc les pasteurs Donato et Annise Anzalone qui nous ont partagé un témoignage merveilleux de la guérison de leur petite fille Gabriella. Je vous laisse regarder tout de suite. Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi le pasteur Donato Anzalone et son épouse Annelise. Bienvenue à tous les deux dans « C'est mon histoire ».
Bonjour Evelyne.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Oui. Super.
On est heureux d'être ici.
Oui. C'est un plaisir pour moi et vous allez nous partager une histoire qui est vraiment merveilleuse. Moi, j'aime les histoires de guérison et encore plus quand il s'agit de guérison d'enfants. Donc, vous allez nous raconter l'histoire de la guérison de votre fille Gabriella qui a été guérie de la maladie. Je ne vais pas l'estropier. Dites-le. Comment ça se dit?
Le CMV.
Le CMV qui
veut dire le cytomégalovirus.
Cytomégalovirus, qui est donc une altération au niveau du cerveau. Qui fait que certaines parties du cerveau, en fait, à la naissance, étaient simplement mortes, en fait, donc infonctionnelles, si je comprends bien, c'est
exactement
ça.
Exactement.
Et puis, donc, vous avez découvert petit à petit, à l'âge de 7 mois, vous avez réalisé qu'il y avait un problème. Mm-hmm. Et pasteur Donato, vous me disiez hors antenne qu'un jour, quelqu'un dans une ligne de prière, un homme de Dieu vous a demandé de prier pour son enfant qui était malade.
Voilà. Oui, en effet, c'était un homme, lorsque les gens venaient pour demander la prière, il me disait ceci, il m'a dit, pasteur Donato, priez pour mon fils parce qu'il est handicapé. Et c'est une honte pour mon ministère. Et je le regarde, je dis, c'est bizarre. Parce que moi aussi, j'ai un enfant handicapé. Et c'est pas une honte pour mon ministère. En fait, la Bible dit que les enfants sont une bénédiction, un héritage de la part du Seigneur, une récompense. Et il n'est pas dit que ce sont les enfants en bonne santé.
C'est les enfants.
Oui, un point, c'est tout. Ah, oui. Et donc, et en fait, je me suis dit avec lui, je lui ai dit, vous savez, c'est pas pour votre fils que je prie, c'est pour votre tête. Il a mal pris.
Oui, j'imagine. Oui, j'imagine.
Mais heureusement que tous les hommes de Dieu ne sont pas comme ça.
Exactement.
La plupart, en général, même si je dirais même la majorité, sont des gens pleins de compassion et qui comprennent très bien que ce qui leur arriverait à leurs enfants, eh ben, c'est jamais une honte pour eux.
Hein, exactement.
Comme ça n'était pas une honte pour nous.
Pour vous, c'est ça. Ça n'a pas été une honte. Non. Et puis, si on revient au moment, parce qu'il y a des parents qui nous écoutent et qui se disent, moi aussi, mon enfant est malade. Et je crois que le moment le pire en tant que parent, c'est l'annonce du diagnostic. C'est ça. Et comment vous avez réagi quand justement ce diagnostic tombe, on vous dit maladie incurable.
Oui, oui.
Mais pour nous, ce n'était pas un diagnostic, c'était un verdict.
Oui, okay,
comme,
oui.
Comme on est devant le juge, là, boum, il n'y a rien à faire parce que c'était vraiment incurable. Vas-y, mon chéri.
Oui, il y avait un moment de choc.
Oui.
Un moment où on se dit, ah, ça ne peut pas être vrai, j'ai peut-être mal compris, ou ce n'est pas si grave que ça, ou ils se sont trompés. Mais on n'a pas été dans le désespoir. Au moment qu'on a commencé à réaliser que c'était quand même vrai,
oui.
Hein, parce qu'ils nous ont aussi montré vraiment
les
lésions dans le cerveau, donc oui, c'est bien vrai. À ce moment-là, on s'est rendu compte que ça, c'était pas le mot final.
OK. Hein.
Il y a un autre rapport qui est plus important, plus réel, en effet, plus vrai de ce qu'on nous montre.
Et peut-être qu'il faut peut-être expliquer d'abord le premier rapport, qui est le rapport des médecins.
Oui, oui, oui.
La Bible dit quel rapport allez-vous croire ? Le rapport des hommes ou le rapport de Dieu ? Le rapport des médecins était clair. Oui. Gabriella, lorsqu'elle était encore dans le sein de sa maman, a attrapé avec sa mère le CMV. Le CMV est un virus qui s'appelle le cytomégalovirus, ça c'est le nom complet. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va jusque dans le cerveau, jette un gel sur les cellules du cerveau, celle-ci s'isole et en s'isolant, elle meurt.
Okay.
Donc toutes les cellules du cerveau concernant la motricité fine, le marcher et le parler étaient complètement détruites. Les médecins nous ont dit, votre fille ne parlera jamais, ne marchera jamais, aura toujours des problèmes de motricité, mais ils ont omis de nous dire que, en général, tous les enfants avec le CMV meurent à l'adolescence.
Ah oui, en plus.
Oui.
Oui, en plus.
Ok, mais ça, ils vous l'ont pas dit.
Non. Ils ont omis de le dire.
Ben, heureusement.
Oui.
Peut-être, hein.
Ben oui.
On se passe de ce genre de mauvaises nouvelles.
On l'a su par après.
Vous l'avez su par après. Et en plus, c'est une maladie qui est dégénérative pendant les deux premières années de vie.
Oui.
Donc, en fait, ce que vous voyez là au niveau de Gabriella, on vous dit que ça risque d'être pire, d'empirer dans les deux premières années de sa vie.
Parce que le virus était toujours présent.
Exactement. Donc, les dégâts au cerveau continuent de se produire. Donc là, pour l'instant, c'est un petit bébé qui ne tient simplement pas sa tête. Mais finalement, vous voyez qu'elle n'est pas capable de tenir assise, qu'elle ne peut pas commencer à ramper. Et puis, au niveau du langage, forcément, il n'y a pas de premiers mots qui arrivent. Et comment ça se passe ces premiers mois de après l'annonce du diagnostic, les mois passent et puis vous voyez les séquelles qui commence à sortir.
En fait, avant qu'Annelise réponde à cela, on avait un double problème.
Okay.
Le problème, c'était les dégâts faits par le virus.
Oui.
Et peut-être le plus gros problème qu'on avait, c'était que le virus était encore là et il n'y a aucun remède contre le virus. Donc, non seulement il n'y a pas de remède pour les dégâts qu'il a déjà accomplis, mais il n'y a même pas de remède pour se débarrasser du virus. Et il a une durée de vie à peu près 2 ans. C'est ça qu'il nous avait dit. Et donc, pour nous, c'était un double combat. C'était le combat pour croire d'abord que le virus allait être détruit. Et là, nous avons pris autorité. Nous avons dit, dans le nom de Jésus, nous proclamons que ce virus est détruit et qu'il ne fait plus de dégâts.
Oui. Au moins déjà arrêter le train en marche, si on veut.
Et depuis ce moment-là, on n'a plus jamais vu de dégâts supplémentaires.
Okay. Non, non.
Amen.
Ça, c'était déjà c'était une belle victoire pour vous.
C'était une victoire.
Parce qu'on sait, la foi fonctionne avec des victoires, s'alimente par des
victoires.
Donc déjà, il y a eu cette première victoire. Il n'y a pas eu de dégâts supplémentaire. Non. Maintenant, il fallait régler le problème des dégâts qui avaient déjà été faits.
Et qui n'étaient pas moindres. Hein.
Oui.
Oui, oui, hein. Oui.
Et c'est là qu'Annelise dit, il y a deux rapports. Il y a le rapport des hommes et le rapport de Dieu. Mm-hmm. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris.
Oui.
Et on s'est accroché à ce genre de promesses-là, vas-y. Je...
Oui. Donc, bien sûr, après un diagnostic pareil, donc toute une machine médicale se met en route,
oui.
Bien que donc il y a, c'est une maladie pas curable, mais donc il y avait des physiothérapies qui allaient se faire pour que justement les muscles ne deviennent pas toutes raides, des choses comme ça. Et bien sûr, on nous avait pas promis des progrès, parce non. qu'il n'y a pas cette possibilité.
Lorsqu'on l'a apporté chez le kinésithérapeute, ouais. mm-hmm. la kiné a dit, quand elle a vu Gabriella, elle a essayé de faire des tests avec elle, mm-hmm. elle a dit, elle était tellement choquée qu'elle a dit, je ne sais rien faire avec cette chose-là.
C'est terrible.
Et c'était pas méchant, hein.
Non, non.
Elle était tellement désespérée.
C'est ça.
Hein, on la connaît, c'est oui. une femme extraordinaire, mm-hmm. mais elle était choquée, désespérée.
Tellement la situation de Gabriella était grave et sérieuse.
Oui, oui, oui,
c'est pour dire
oui,
à quel point exact. C'était quand même un cas réellement critique, en
oui,
fait.
Oui.
Et vous, Annelise, vous me disiez avant l'émission que quand vous étiez enceinte,
oui.
vous aviez reçu des paroles et des images aussi de votre oui, fils, oui, c'est
oui.
ça ?
Oui, il y a deux choses. Je pense que chaque maman hein, qui est enceinte, elle se fait une image mentale de son enfant. Et à un certain moment, donc, nous avons su que c'était une fille. Mm-hmm. Donc, pour la maman qui... Moi, j'avais donc déjà un petit garçon.
Oui.
C'était une superbe nouvelle d'avoir donc une fille. Mm-hmm. Et je peux m'imaginer qu'on peut penser à des tas de choses quand on pense, ah, je vais avoir une fille. Mm-hmm. Mais moi, en effet, quand je pensais à elle, mm-hmm. je la voyais faire tout ce qu'elle n'aurait jamais pu faire.
Marcher. Donc,
je la voyais marcher, danser, courir, mais encore, je vois l'image encore devant moi,
wow.
Courir derrière un ballon, sur une bicyclette. et puis, en effet, c'est merveilleux, parce que toutes ces choses se sont vraiment passées un par un, des années plus tard.
Donc, vous vous étiez accrochée à oui. ces images que vous étiez fait de votre fille.
Oui, oui.
Et c'était ça qui a encouragé votre
foi. C'était l'image visuelle devant moi, que bien sûr, qui était à soutenir avec la parole de Dieu.
Mm-hmm.
Hein, quand nous avons... oui, nous, quand nous nous sommes combattus donc pour recevoir sa guérison,
mm-hmm.
C'était pas basé sur... sur une chose comme ci ou comme ça, mais mmh. vraiment sur la parole de Dieu. Mmh. Mais cette image m'aidait à voir, OK, j'ai un but dans la foi,
mmh.
c'est comme ça, et ça va être comme ça.
Exactement, c'était oui, comme oui. un objectif à atteindre, en fait.
C'est ça.
Exactement.
Et aussi, le Seigneur m'avait donné un verset,
mmh.
Donc le verset dans Jacques, verset 17, où on parle donc de tout don excellent et tout don parfait. Et moi, je me disais quelquefois, mais donc pendant ma grossesse, mm-hmm. chaque fois quand je pensais à mon bébé, mais je dis, Seigneur, moi je sais bien qu'elle est parfaite, je sais bien qu'elle est excellente, je m'attends pas de moins que oui. ça. Et après, donc quand en effet la diagnostic nous a bien montré,
mm-hmm.
elle était pas parfaite du tout, mm-hmm. hein, qu'il y avait et sa santé n'était pas parfaite, qu'il y avait des choses vraiment sérieuses qui n'allaient pas du tout, ça a commencé à faire partie de ma confession.
Mmh,
elle
merci.
Est parfaite,
mmh.
tu es parfait, tu es excellent. Tu
excellente,
es
parfaite.
Excellente, mmh. oui, mmh. excuse-moi, mais
je t'en prie,
c'est comme ça.
Je t'en prie, ma chérie.
Hein, tu es excellente, oui. tu
Amen.
Es parfaite. Parce que tu es venu du Père.
Amen.
Oui,
amen.
En plus, il dit du Père des Lumières, chez
amen.
Qui il y a un point
oui.
ombre de changement.
Amen.
Ça veut dire qu'il n'a pas changé pour nous
mm-hmm.
et il ne changera pas pour les autres.
Exactement.
Oui.
Et si vous nous écoutez, il ne changera pas pour vous non plus.
Amen.
Amen. Oui, oui,
ça veut dire qu'il est toujours le Père de Lumière.
Oui.
Amen.
Mm-hmm.
Et ça, je crois que c'est important de se rendre compte. ce que le Seigneur a voulu faire pour Gabriela, il le fera pour les autres.
Exactement. Et vous me disiez aussi que vous n'aviez pas eu de prophétie disant qu'un jour elle allait marcher, qu'un jour ci, un jour ça. Vous n'avez pas reçu de prophétie, mais que finalement, vous vous disiez, on n'a pas besoin de prophétie, on a la parole de Dieu. Ce n'était pas une nécessité pour vous d'avoir une prophétie.
Oui, et certainement, la Bible dit, ne méprisez pas la prophétie.
Bien sûr.
Et on est tous d'accord là-dessus. Probablement que ça nous aura fait du bien d'entendre une parole prophétique que Yveline vient au Michael qui dit « Donato !» Ça aurait été génial.
Je n'étais qu'un enfant à ce moment-là.
Oui, c'est vrai. Mais ça aurait été génial, je crois que ça nous aurait encouragé.
Oui.
Mais la Bible dit quand même qu'on a aussi une parole prophétique plus certaine, c'est la parole de Dieu.
C'est ça.
Anonyse dit, quand elle dit qu'elle avait reçu ce verset dans son cœur, c'était un verset de la Bible.
C'était tout aussi efficace qu'une prophétie.
Absolument. Oui. Et je crois que c'est là qu'on doit faire attention, parce que certains pensent que s'ils n'ont pas une parole prophétique, ils n'auront pas leur guérison. C'est pas ce que la Bible dit.
Non.
Croyons la Bible, comme les enfants croient la Bible telle qu'elle est. Et c'est ce qu'on a fait. On a osé croire la Bible. Oser croire que ce que Dieu disait de notre enfant est la vérité. Par les meurtrissures de Jésus, elle est guérie, tu es tout don parfait, excellent, vient du Père des Lumières, chez qui il y a un point d'ombre de changement. Nous disions à Gabriela constamment, Gabriela, tu es un don de Dieu, tu es parfaite. Nous lui disions, l'Éternel est l'Éternel qui te guérit. Et donc, et à ce moment-là, nous commencions à concevoir dans notre esprit que Gabriela était guérie.
Amen.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commence à confesser. Et qu'est-ce qu'on disait? Elle ne pouvait pas marcher, tu marches. Elle ne pouvait pas parler, tu parles. Tu parles plusieurs langues, on disait. Tu danses, tu cours, tu chantes. Et on le disait constamment, constamment. Et si je peux donner aussi un petit conseil.
Oui, bien sûr.
Il y a des choses qu'on dit à nos enfants, comme la confession de la parole de Dieu, par exemple, ou même sur votre propre vie, qu'on ne peut pas toujours dire devant tout le monde. Pourquoi?
Les gens ne comprennent pas.
Ou ils ne comprennent pas, et parce qu'ils ne comprennent pas, ou parce qu'ils n'ont pas cette même saisie de la foi que vous avez ou que j'ai, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer peut-être à nous dire, « Ah, mais il ne faut pas parler comme ça, il faut accepter. » Quelques-uns ont voulu nous dire ça. « Il faut accepter, ta fille sera sur une chaise roulante, etc. etc. et tout. » Alors, ça n'aurait pas changé quoi que ce soit si elle avait été dans une chaise roulante.
Absolument.
Pour nous, ça ne change rien.
Non.
La parole reste toujours la parole et notre amour pour l'enfant resterait toujours la parole.
Oui.
Notre amour, par contre, si je peux porter notre enfant, si on a pu porter notre enfant pour vivre vers le meilleur que Dieu a, c'était mieux.
Exactement.
Et c'est ce que nous, on a voulu faire.
Exactement.
En osant croire la parole de Dieu.
Vraiment. Et les premiers progrès, vous avez commencé à les constater. Elle avait 14 mois.
Oui.
Elle a commencé à tenir sa tête.
Oui.
Donc,
oui.
C'était le progrès.
Hallelujah.
Sa tête. Et aussi, donc, quand on la met donc, sur son ventre, donc...
À lever la tête.
Lever la tête. Oui. Avant, ça tombait toujours comme ça. Puis elle a commencé à se tourner aussi et s'asseoir.
À s'asseoir toute seule. Vous me disiez que c'était 6 coussins au début pour la tenir assise.
Oui.
Ça, elle était comme... Et comment vous avez réagi quand justement vous avez commencé à voir ses progrès? Elle a pu commencer à se tenir même debout petit à petit à tenir.
Oui.
Est-ce que c'était une surprise pour vous ou c'était « Ah, enfin ça arrive ».
Non, c'est toujours une surprise. Moi, je crois que Dieu nous surprend. Je crois que Dieu nous surprend toujours. Mais une chose est certaine, c'est ceci. Et je voudrais encourager tout le monde avec cela.
Oui.
Lorsque Élie, le prophète Élie, demande à son serviteur de retourner pour voir s'il y a quelque chose qui change dans le soleil et tout.
Oui.
Au bout de 7 fois, il revient, probablement fatigué,
lassé.
Probablement, il se dit, mais il n'a qu'à le faire lui-même. Il arrive et il lui dit, écoute, j'ai rien vu d'autre qu'un petit nuage qui n'est pas plus grand que la main d'un homme. Probablement, il s'est dit, ah, je retourne. Mais il ne lui a pas dit de retourner. Non. Il lui a dit, va vers le roi, qu'il se prépare parce que la pluie arrive. Et je crois que ça, c'est une qualité qu'on doit tous avoir. C'est dans la moindre amélioration de ne pas voir que c'est un homme, mais c'est la grande main de Dieu.
Amen. Hein? Et donc, pour vous, dès que vous avez vu qu'elle tenait sa tête, pour vous, le processus de guérison était enclenché.
Oui, absolument.
Et on y va, on ne s'arrête plus jusqu'à la fin.
Alléluia.
Et finalement, à partir de quel âge elle a commencé à marcher?
Donc, marcher vraiment bien.
Toute seule.
Toute seule, avec des pas de confiance, disons. quand elle avait 3 ans.
Elle avait 3 ans, ouais, donc c'était comme 2 ans plus tard que ce qui est normal.
Mais attends, attendez, c'est vraiment super. Mm-hmm. C'est que au bout de presque quand elle avait 3 ans, elle commençait donc bien sûr à marcher à 4 pattes maintenant, à s'asseoir bien, à jouer, etc. Mm-hmm. Et tout, et aussi se tenir sur les portes, sur les tables. Mais un jour, j'arrive de mon bureau et je la vois assise par terre. Et là, elle joue, et puis elle me voit avec des yeux grands comme ça, tout plein de picotés,
émue en fait.
Émue, et je lui dis, ouh là là, toi, tu veux montrer quelque chose à papa? Et elle fait comme ça, parce qu'elle parlait pas.
Ben oui, elle parlait pas encore, oui.
Et puis, je vous assure, c'est extraordinaire. Elle se lève, ça je savais qu'elle savait faire. Mmh. Elle tient sa main sur la table, je savais qu'elle allait faire ça. Mais à un certain moment, elle lâche les mains. Et elle veut tenir debout, vous savez, elle s'arc-boute comme ça. Et retombe de nouveau sur ses pieds. Et puis elle commence à marcher. Et elle n'a jamais arrêté de marcher de sa vie.
C'est magnifique. Oh. Vous me mettez de l'émotion, là.
Pour moi, c'était vraiment... Oui. C'était vraiment... Ouais. La finalité. Mmh. Non seulement nous savions qu'elle était guérie, et nous savions que tôt ou tard elle allait parler.
C'est magnifique. Oui, oui, oui. Et elle a commencé à parler.
Attends, tu dois savoir.
Oui.
Les 3 premiers mots de Gabriela, les mêmes mots pour chacun de nos enfants.
Ok.
Papa. Alléluia.
Ok.
Maman. Tous mes enfants comme ça.
Tous.
Et un jour, le Seigneur me dit, Donato, mais tu sais, quand Gabriela disait papa, c'est moi, hein, c'est pas toi.
Oh. Moi, je me suis sentie bonne.
Finalement, c'était maman, son premier.
Amen, amen.
Oh, c'est merveilleux.
Mais en fait, nous, on se réjouit de ça, parce que je le crois vraiment. Parce que nous, on a toujours enseigné à nos enfants, on leur a toujours dit, on vous aime plus que tout autre, mais on aime encore Dieu plus que vous.
Ah oui.
Exactement. Et on les a appris qu'ils doivent nous aimer plus que tout autre.
Amen.
Mais au-dessus de nous, ils doivent encore aimer
Amen.
Dieu.
Et on a justement, vous prenez le carton, c'est parfait. J'allais vous proposer qu'on regarde justement le mot du médecin qui est obligé de reconnaître l'évidence qu'elle est guérie. Je vous laisse le traduire. Il est en flamand parce que vous étiez en Belgique à ce moment-là.
On va traduire qu'une partie parce que l'autre partie, c'est uniquement ce qu'elle a fait dernièrement. Mais malgré, donc.
Donc ici, c'est marqué. Donc, malgré les anomalies au niveau du cerveau, remarquées avec la résonance magnétique, Gabriela semble quand même passer par une évolution psychomotorique très, très, très favorable.
Oh, il aurait juste pu écrire « miracle ».
Moi, j'aime beaucoup le mot « malgré ».
Oui, « malgré », exactement.
C'est toujours « oui, il y a ça ». Mais Dieu.
Amen. Le malgré, c'est le mot de Dieu.
Oui, ça, c'est le mot de Dieu.
Et on voit, il y a également des photos de Gabriela maintenant, qui est une jeune fille absolument magnifique, qui sert le Seigneur. On la voit à droite, elle prêche, elle est engagée avec Dieu, elle a fait une école biblique, c'est ça. Oui. Et vraiment, c'est une jeune fille pleine de vie. Elle a quel âge aujourd'hui?
26 ans. Presque infirmière.
Presque infirmière, c'est ça. Une vie parfaitement normale. Vous avez pu l'inscrire à l'école normale. J'ai pas le temps de raconter toutes les péripéties, mais elle a fait un cursus scolaire normal. Elle a eu une vie normale comme une enfant de son âge, comme une jeune fille de son âge. Et c'est vraiment, on rend toute la gloire à Dieu. Et il nous reste un tout petit peu de temps. Et Annelise, si vous voulez bien, priez pour les enfants, les parents également, qui regardent cette émission, qui ont eux-mêmes des enfants qui sont malades, pour pouvoir les fortifier dans la foi.
Alléluia, alléluia.
Alléluia. Seigneur, nous te prions maintenant pour des parents et des familles, des enfants qui sont dans cette même situation. Merci Seigneur parce que tu les bénis, Seigneur. Tu touches maintenant ces enfants, Seigneur, dans le nom de Jésus. Parce que ton action de guérison est toujours la même, Seigneur.
Alléluia.
Et ton amour est la même pour tous, Seigneur. Il n'y a pas de favoris, ils sont tous tes favoris, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et je te prie aussi pour les parents, Seigneur, qui peuvent vraiment faire des pas de foi, Seigneur, qui peuvent s'accrocher à ta parole et voir le miracle que tu as prévu pour eux s'accomplir dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu les fortifies et tu les aides, Seigneur, à aller jusqu'au bout dans leur
Seigneur.
Foi.
Amen.
Et qu'il y a une grande récompense pour eux et pour leurs enfants. Dans tout ce que tu as prévu pour eux. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces guérisons qui sont opérées dans ces enfants. Ce que vous avez vécu, vous n'avez rien fait de spécial. Vous avez simplement cru en Amen. Dieu. Et Amen. Je crois que le secret est Amen. Simplement là. C'est Amen. La foi. Exactement. Oui. Et puis, j'encourage les gens à se procurer votre livre. On le redit, on l'a présenté il y a 2 semaines. Mais votre livre, L'audace de la foi, Pasteur Donato, parce que vous en parlez de ce témoignage. Oui. Mais vous donnez des clés justement pour oui. marcher dans cette audace. Parce que la foi, c'est quelque chose d'audacieux.
Amen.
C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et je crois que dans des situations comme ça, en tant que parent, on doit se positionner et on doit être violent, dans la foi. Oui. Et c'est ce que vous avez fait. Et vraiment, on rend toute la gloire à Dieu. Merci à tous les deux d'être venus nous partager ce témoignage qui est merveilleux. Vraiment, un gros merci.
Merci Evelyne. À bientôt.
Merci à très beaucoup. Bientôt. Merci. C'est un témoignage qui est vraiment merveilleux, qu'on connaît déjà. Il avait déjà été partagé même sur enseigne-moi.com. Mais je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est toujours une histoire extraordinaire à entendre.
Ouais, c'est la première fois que je l'ai entendu. Je me suis dit, ouais, c'est tellement beau. Et c'est vrai que c'est un témoignage qui touche énormément parce que là, le verdict médical était final.
C'est ça, il dit, c'est vraiment un verdict qu'ils ont reçu. C'est pas un diagnostic, c'est un verdict.
Il y avait comme vraiment pas d'espoir. Et moi, j'admire la foi qu'ils ont manifestée et démontrée sur quand même du long terme. Vraiment, je trouve ça très, très encourageant.
C'est ça, c'est quand les choses tardent à venir, que les choses viennent étape par étape, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis ensuite, ils ont dû se battre. Ils l'ont partagé aux antennes pour que leur petite fille puisse être scolarisée aussi dans une école normale. Ils ont eu beaucoup d'opposition. Ça a été un combat long et compliqué, mais ça valait tellement la peine. Et quand Dieu s'est levé, ça a été juste glorieux et extraordinaire. Donc Dieu peut se lever dans votre situation à vous aussi. Il peut manifester sa toute puissance. Encore une fois, je vous le répète, ne désespérez pas. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans votre situation. Soyez relevés aujourd'hui, relevez la tête et confiez-vous en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent week-end dans la présence de Dieu et à la semaine prochaine.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.